Archipel, le podcast de l'écologie politique qui explore le territoire gironde.
Bonjour, bienvenue dans le deuxième numéro du podcast Archipel. Donc Archipel, pour rappel, c'est un média multi-support lancé par le groupe Écologie et Solidarité au département, avec l'idée de réfléchir à de grandes questions qui concernent la transition écologique et environnementale. Ce deuxième numéro, qui est donc consacré aux mobilités, on est très heureux de pouvoir vous accueillir. Mathieu Rau, fondateur de Virage, et Laurent Gégou, qui est directeur mobilité chez Auxilia Conseil. Merci vraiment beaucoup à tous les deux de vous joindre à nous. Donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir réfléchir à cette question de la mobilité. Moi, je me présente, je suis donc Romain Dost, je suis vice-président à la politique des aînés, mais c'est plus finalement au titre de ma participation à la commission mobilité au département que j'interviens ici. On a effectivement au département le sujet de la mobilité qui se pose avec un certain nombre de grands enjeux, à commencer par celui de la précarité mobilité, qui est un thème fort, comme l'indique le rapport Territoires ruraux. En panne de mobilité, c'est le nom du rapport qui est publié par le Secours catholique en 2024. En France, seuls 19% des habitants des communes rurales affirment pouvoir choisir leur mode de transport. Donc on a une difficulté aussi à choisir son mode de transport en milieu rural. Être sans voiture dans ces territoires, c'est synonyme de renoncement, de précarisation, voire d'isolement social complet. Car c'est toute la vie quotidienne qui est affectée, que ce soit l'accès aux soins, l'emploi, les loisirs, l'alimentation. On y reviendra avec vous. Un autre rapport qui nous semble intéressant, c'est celui de la Fondation pour la Nature et l'Homme, en lien avec WeMove, qui a estimé en 2021, dans son baromètre mobilité, que 13 millions de personnes sont en situation justement de précarité mobilité en France, soit 27% de la population totale des 18 ans et plus, ce qui est quand même assez majeur. On pourrait rajouter un troisième chiffre que je trouve assez marquant, moi c'est celui, et je pense qu'on pourrait y réfléchir ensemble, c'est celui de la distance. On sait qu'aujourd'hui, on a 50% des trajets qui font moins de 5 km, et on a là aussi un axe de travail sur lequel on essaie de réfléchir au département. Donc cette précarité mobilité est le reflet de notre société, qui a fait aussi de la voiture individuelle le symbole de la liberté de se déplacer et qui a régi, organisé tous les modèles d'urbanisme. Et c'est aussi ça que je vous demanderai de challenger, ou en tout cas de réfléchir avec nous. Donc je ne fais pas plus long sur mon intro, je te laisse peut-être Mathieu le soin de te présenter. Peux-tu nous dire un peu quel est ton parcours et puis nous parler de Virage, cette solution de vélo en entreprise?
Bon, bah, bonjour Romain, merci de m'accueillir sur ce nouveau podcast. Donc je suis Mathieu, fondateur de Virage, je suis entrepreneur bordelais, papa de trois enfants. Et en fait, tout est parti de ma petite histoire personnelle, puisqu'il y a... Il y a une dizaine d'années, j'étais moi-même commercial, et qui dit commercial dit voiture de fonction. Je faisais absolument tous mes trajets en voiture. Je ne m'opposais pas à la question, que ce soit un grand trajet pour faire 400 km, mais aussi la majorité de mes déplacements, des petits trajets qui faisaient, tu l'as dit tout à l'heure, qui faisaient souvent moins de 5 km. Et par habitude, je les faisais en voiture. Et en fait, je me suis mis au vélo électrique il y a une dizaine d'années, et rapidement j'ai compris que la voiture n'était pas la solution idéale pour ces petits déplacements. Et j'ai vu qu'il y avait un décalage entre ce que me proposait l'entreprise, la voiture de fonction, où j'en avais pas forcément l'utilité puisque je ne faisais pas forcément des grands trajets pour aller voir mes clients. Et la proposition de l'entreprise n'était plus forcément adaptée. Et c'est là que j'ai réfléchi, c'était il y a une dizaine d'années. Je me suis dit, pourquoi l'entreprise ne propose pas un vélo électrique. Et c'est comme ça que j'ai eu cette idée. L'idée de virage, c'est de démocratiser le vélo de fonction. Attention, c'est pas comme la voiture de fonction où c'est assez statutaire. Je parlais des commerciaux, mais en général, c'est des cadres et des commerciaux quand il y a une voiture de fonction. Le vélo de fonction s'adresse absolument à tous les salariés. À partir du moment où vous avez un trajet domicile-travail, vous êtes éligible à avoir un vélo de fonction. Virage, je l'ai créé il y a 5 ans. On travaille avec une cinquantaine d'entreprises, la majorité en région Aquitaine. Et en fait, on propose un service clé en main de vélos, principalement des vélos électriques. On propose un service de location longue durée pour les entreprises, pour qu'ils les mettent à disposition de leurs salariés. Mais un vélo électrique, ça ne suffit pas. Un vélo électrique équipé et avec tout un service autour, de l'assurance, assurance vol, parce qu'on a toujours peur de se faire voler son vélo, une assurance casse, de la maintenance du vélo qui a lieu soit en atelier partenaire, soit directement sur le site de l'entreprise. Des animations aussi pour faire connaître le vélo aux entreprises.
Merci Mathieu. Je vais passer le micro à Laurent Jégou, directeur mobilité chez Auxilia Conseil. Je te passe le micro, Laurent. Donc, peux-tu nous dire toi aussi quel est ton parcours et ce que fait Auxilia Conseil ?
Merci, oui, avec plaisir. Laurent Jégou. Je m'occupe de l'expertise mobilité d'Auxilia. Donc, Auxilia, c'est une structure associative qui a un peu plus de 20 ans, qui conseille les collectivités, les agences de l'État sur l'ensemble des champs de la transition écologique. La mobilité, c'est un des champs historiques d'Auxilia, mais on travaille aussi sur des questions d'agriculture, alimentation, d'économie circulaire, d'énergie climat, adaptation au changement climatique. On touche vraiment un peu à tous les champs et avec un prisme très peu technique, mais plutôt politique publique, accompagnement du changement, approche sociologique. Par exemple, typiquement sur les questions de mobilité, on a vraiment cette approche sociologie des mobilités. Nous, on a trois grands champs thématiques sur les sujets de mobilité. Le premier, c'est la mobilité inclusive. Ça percute directement ce que tu disais, Romain, en introduction, l'enjeu d'attaquer la précarité mobilité. Précarité qui est souvent composite, mais qui peut venir d'une part de la... des contraintes inhérentes à la situation des personnes, précarité, vulnérabilité financière, et qui vient aussi souvent de l'emploi. Alors, soit de la difficulté d'accès à l'emploi, mais aussi d'une hypermobilité liée à l'emploi, des distances au quotidien pour rejoindre son lieu de travail, des journées fractionnées. Je crois qu'on reviendra tout à l'heure un peu au sujet là des profils aide à domicile, ce genre de métier. Deuxième champ, c'est la mobilité en milieu peu dense. Donc pareil, ça a été évoqué en introduction, cette notion des distances au quotidien et des territoires qui sont démunis pour attaquer ce sujet-là. Et troisième champ, c'est la mobilité en milieu urbain, urbain, périurbain, avec là l'enjeu de reconquête un peu de terrain sur la voiture pour justement à la fois attaquer les enjeux de pollution atmosphérique, mais aussi de précarité mobilité, parce qu'il y en a aussi au cœur des...
Merci beaucoup à tous les deux. Donc, on voit bien en vous écoutant que la question effectivement de la mobilité au travail est essentielle. Et c'est ce sujet-là que je vous propose d'approfondir. Au département, on s'est lancé depuis environ 3 ans sur un plan assez ambitieux de développement des véhicules hybrides auprès des auxiliaires de vie, des aides à domicile. Tu faisais allusion, Laurent. C'est un plan dont on est assez fier dans le sens où on sent qu'il y a de la part des services d'aide à domicile une vraie réception et quelque chose qui change la donne, notamment pour les auxiliaires de vie. C'est donc des véhicules qui permettent à la fois de combiner les usages professionnels et personnels. C'est souvent un élément qui fait que les gens ne vont pas sur ces métiers-là parce que ils ont des, voilà, c'est plutôt des femmes d'ailleurs qui ont des voitures qui peuvent être anciennes ou qu'elles n'ont pas envie justement de dédier à leur usage professionnel. Et donc, on a là justement quelque chose qui répond à ce besoin et qui permet finalement d'intégrer un métier qu'elle ne pourrait pas faire sans cette solution-là. Donc, l'idée, c'est de proposer ces véhicules hybrides au service d'aide à domicile. On a un plan de 1000 véhicules. On est environ à 600 avec l'idée justement d'arriver à l'horizon 2027 à ces 1000 véhicules. Donc, les auxiliaires de vie, c'est effectivement un métier qui demande de rouler beaucoup, surtout en milieu rural. Ça pose aussi des contraintes en milieu urbain, des contraintes de stationnement, de circulation qui peut se poser. Et donc, voilà, on a cette solution des véhicules hybrides. Il existe aussi un certain nombre d'autres solutions, et c'est vrai pour ce métier, c'est vrai pour d'autres. Est-ce que vous pouvez nous dire, à travers Mathieu, ton parcours aussi, et puis ta proposition de proposer des vélos justement à des corps de métier, est-ce que tu peux nous dire quel est le profil aussi des sociétés que vous accompagnez et en quelle mesure justement apporter de nouvelles solutions de mobilité peut être aussi quelque chose qui résout les problèmes?
Alors, ce qui est bien difficile, mais ce qui est très prometteur, c'est qu'on voit que sur les entreprises qui prennent des vélos de fonction, la cible, elle est très, très, très grande. Nous, on a des clients, on a aussi bien le café en face de la gare, qui a mis à disposition une dizaine de vélos pour leurs salariés. Un grand groupe, d'ailleurs un grand groupe dans la santé, donc c'est notre plus gros client, on a 200 vélos en circulation sur une trentaine de sites en France. On a des cibles qui sont très grandes. Je pense que la première chose, la première raison qui donne envie aux entreprises de se lancer, c'est que les salariés arrivent au travail le matin moins stressés, moins tendus d'avoir passé des heures dans des bouchons, d'avoir pris énormément de temps pour se garer. Et le fait d'arriver avec des salariés qui arrivent avec le sourire le matin, ça, c'est peut-être une des raisons. Une des raisons principales. La deuxième raison, elle est sur la santé. Hein. On a des métiers de plus en plus sédentaires. Hein. En français, reste en moyenne 8 heures par jour assis. Hein. C'est énorme. Nos modes de vie ont complètement évolué par rapport à le mode de vie de nos grands-parents ou de nos arrière-grands-parents. Le fait de faire un petit peu d'activité physique le matin ou le soir, même si c'est en vélo électrique, on reste dans de l'activité physique. Et ça, c'est bon. C'est bien. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dire. Il y a une étude du MEDEF qui avait été sortie il y a quelques années et qui disait qu'il n'y a pas qu'un salarié qui fait de l'activité physique régulière, en tout cas quotidienne, est un salarié qui est plus productif. Donc ça parle à un patron de PME, enfin un patron d'une entreprise. Bien évidemment, il y a des enjeux écologiques. On sait qu'aujourd'hui, un tiers des émissions de CO2 sont liées au transport et à la mobilité. Et en fait, on a aujourd'hui une action concrète. Je veux dire, quand on vient aujourd'hui, on lâche sa voiture et on passe au vélo. Là, on devient acteur de la transition écologique. C'est vraiment quelque chose de vrai, concret, qu'on voit du jour au lendemain qui permet de réduire drastiquement les émissions de CO2 des entreprises sur les trajets domicile-travail, notamment. Le vélo ne peut pas... est une des solutions pour la transition écologique, mais elle n'est pas évidemment la seule. Et je pense qu'il faut arrêter qu'on oppose les modes. Moi, je suis toujours très étonné dans les entreprises. on met une étiquette sur chacun des personnes. Toi, tu es cycliste, oui. Toi, tu es automobiliste. Comme si on était né cycliste, comme si on était né automobiliste. Et ça, c'est très frappant dans les entreprises. Et ce que je veux dire, c'est que bah, tout va dépendre du trajet et donc de la fonction. Finalement, la fonction, finalement, ça importe peu. C'est surtout bah, du trajet qu'on va faire. C'est sûr qu'un trajet à vélo, c'est un petit trajet. Il faut en être bien conscient. Donc, on a des utilisateurs en moyenne, c'est entre 8 et 10 km le trajet de nos utilisateurs. Mais ce qui est déjà pas mal. Et on a des utilisateurs qui font bien plus. J'en ai un qui fait 20-30 km. Mais c'est plus rare. Mais voilà, donc ça va dépendre vraiment de la typologie du trajet. Je pense qu'on doit tous se poser la question avant d'aller monter dans sa voiture, de se dire, bah, tiens, quelle distance je vais faire aujourd'hui? Quelle distance? Si c'est un trajet de moins de 10 km, bah, dire, bah, tiens, est-ce que vraiment la voiture s'est adaptée? Voilà. Et après, il y a des sujets, bien évidemment, des sujets. Moi, ça, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Je m'étais un peu. Bien sûr, il y a des sujets d'infrastructure. C'est sûr que si c'est un trajet de moins de 10 km, mais si je risque ma vie tous les jours, il n'est pas question de switcher de la voiture au vélo. Et puis après, il y a bien évidemment des freins qui sont plutôt, moi, je pense, d'ordre culturel. De la voiture. Donc, pour répondre à ta question, pour revenir sur la question, c'est oui, les fonctions de métier, finalement, non. Franchement, on a des... je trouve ça absolument génial, c'est qu'on a vraiment toutes les fonctions représentées. Moi, j'ai des aides-soignants, du personnel de ménage même, qui ont des vélos de fonction. Puis après, il y a le patron de la PME qui est ravi d'avoir son vélo, des comptables, du contrôle de gestion. Enfin, vraiment, tous les métiers sont représentés. Maintenant, c'est vrai que ce qui va jouer, c'est le type de trajet qu'on va avoir.
Intéressant ce que tu dis sur... le fait de coller des étiquettes et de se dire qu'assez souvent, on catégorie comme ça d'un côté les cyclistes, les automobilistes et que c'est ça, effectivement, qui a dépassé. Est-ce que toi, c'est quelque chose, Laurent, que tu constates aussi, le fait que les choses sont très sectorisées? Et est-ce que tu peux nous parler justement à la fois des collectivités, des sociétés que vous pouvez accompagner?
Oui, alors ouais, je te rejoins tout à fait là-dessus. Il y a cette notion d'étiquette et il y a aussi des biais sociologiques. En fait, c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui se disent aussi c'est pas pour moi parce que je vois justement plutôt des bobos dans les cœurs de centre-ville qui amènent leurs enfants avec des beaux vélos à assistance électrique parce que j'ai plutôt l'impression que c'est des personnes jeunes, en bonne santé, etc. Alors que comme tu le dis et comme nous on peut le voir sur des profils typiquement auxiliaires de vie, il y a justement un vrai enjeu de santé publique et que des métiers qui sont fatigants, qui présentent des risques musculo-squelettiques, etc., en fait, faire du vélo, c'est vraiment un des meilleurs médicaments pour ça. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de freins. Ça freine aussi, justement, potentiellement des politiques pro-vélo parce que certains élus peuvent se dire justement d'une part je vais être étiqueté pro-vélo donc après je vais mécaniquement me mettre à dos toute une partie de la population et aussi parce qu'on va considérer que c'est hors sol parce que typiquement dans les territoires ruraux on va se dire non mais c'est vraiment je suis complètement hors sujet et de fait beaucoup de territoires partent de loin, tu parlais d'infrastructures tout à l'heure, c'est sûr que beaucoup de territoires ruraux qui ont d'ailleurs des ambitions en la matière en fait partent de tellement loin et ont tellement peu de ressources, à la fois ressources financières, ressources humaines, même ressources un peu sociales pour savoir ce qui se fait, quel programme national peut m'aider à développer certaines choses, en fait, vont pas se lancer. Et donc, du coup, le contexte de cyclabilité du territoire va vraiment être rédhibitoire. Ce qui est intéressant de voir, justement, c'est ce que mentionnait Romain tout à l'heure sur la mobilité des aides à domicile. Donc nous, Auxilia, on accompagne aussi des territoires sur ces sujets-là, avec des approches assez expérimentales au sens aussi de où on fait expérimenter les personnes. Là, dans les Landes, justement, on accompagne plusieurs centres intercommunaux d'action sociale pour le compte du département sur justement l'expérimentation de différents modes de transport pour leur mobilité du quotidien, donc pas que sur le domicile travail, mais sur vraiment leur journée. Et donc, alors, c'est vrai qu'on est sur un public en plus vraiment assez particulier, avec des profils, comme le disait Romain, très féminins, avec souvent aussi peu de sociabilisation au vélo en tant que outil du quotidien potentiellement. Donc, il y a des freins inhérents à ça. Mais on voit que, en fait, quand les conditions sont réunies, notamment en termes de sécurité, c'est des pistes, pareil, qui, du jour au lendemain, on ne va pas avoir 90% des aides à domicile qui vont se déplacer à vélo, mais des pistes quand même qui s'avèrent complètement réalistes et qu'on a des retours très positifs sur la pratique du vélo au quotidien, quand on travaille sur des secteurs qui ne passent pas par des franchissements hyper dangereux, quand c'est sur des boucles de déplacement qui sont compatibles. Et voilà, typiquement, dans une politique de lutte contre la précarité mobilité et de lutte contre les effets du changement climatique, diversifier les modes de déplacement, en allant aussi vers du véhicule hybride, vers du véhicule électrique aussi, petit à petit, on se rend compte qu'en fait, souvent il y a un frein, on se dit, tiens, des emplois où on fait beaucoup de kilomètres dans la journée, c'est rédhibitoire, mais en fait, on voit qu'aujourd'hui, l'autonomie des batteries permet de dépasser ça. En fait, on peut diversifier les choses et se rendre compte qu'on peut faire économiser pas mal de sous aux collectivités, aux agents aussi, et économiser aussi pas mal de kilos de CO2 chaque jour. Donc, il y a un enjeu là-dessus. Ouais.
Ouais, je te rejoins en tout cas sur le fait que l'infrastructure est souvent un élément moteur dans l'aménagement du territoire qui fait que des personnes vont utiliser ou pas, notamment le vélo, qui est clairement un mode de transport où on a besoin de se sentir sécurisé. Justement, est-ce que vous avez, vous, des exemples, alors que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, des exemples concrets de cas où une bonne infrastructure, un bon aménagement a aussi permis de faciliter le transport des personnes que vous accompagnez?
C'est vrai que moi, quand on va voir les entreprises, c'est le premier point qui revient, c'est la sécurité. Une entreprise ne va pas mettre à disposition quelque chose qui est dangereux pour ses salariés. Donc, si l'entreprise est au bord d'une départementale et il n'y a rien, elle n'a pas envie de s'y mettre, quoi. C'est clair. Et c'est tout à fait compréhensible. Des exemples concrets, il y en a beaucoup sur Bordeaux Métropole. Je pense qu'on a de la chance. En tout cas, moi, si j'ai entrepris cette idée-là ici, c'est qu'on a de la chance. Bordeaux Métropole, on a beaucoup de chance. Après, la Gironde, je regardais aussi le dernier classement de la FUB qui classe. Vous savez, il y a un classement sur des utilisateurs, des cyclistes qui notent chacun les aménagements de sa ville. Et on voit que la Gironde n'est quand même pas trop mal placée. Je voyais Saint-Aubin-de-Médoc, par exemple, qui a une très bonne note sur le classement de la FUB. Donc, pour dire qu'ici, on a de la chance, on est plutôt, en tout cas, mieux lotis que certains autres départements, même s'il y a énormément à faire encore aujourd'hui et qu'il y a encore une disparité très forte entre les villes. Donc sur Bordeaux Métropole, des exemples, clairement. Le jour où, c'est encore une petite étape, mais qui doit aller bien plus loin. Mais quand les boulevards sont passés sur une voie bus-vélo il y a quelques années, ça s'est vu. Les salariés dans les entreprises ont moins peur de prendre leur vélo. Alors, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Ce n'est que vraiment le tout début. Mais ça, c'est un impact direct. C'est du jour au lendemain, on dit cet endroit-là, maintenant c'est les bus et les vélos, et vous serez plus en sécurité. Donc voilà, après, c'est sûr, bah, l'exemple du pont Pierre est incroyable aussi, hein, à Bordeaux. Du jour pour le lendemain, on dit bah voilà, les voitures n'ont plus leur place là. C'est tram, vélo et piétons. Personne aujourd'hui, personne, mais je connais, même le plus opposant des vélos, je ne connais qui dirait aujourd'hui il faut refaire un retour en arrière. Les oppositions n'existent plus sur ce sujet-là. C'est quand même incroyable le changement de mentalité comme ça. Et donc oui, enfin clairement, les infrastructures, c'est toujours le truc qui revient en numéro un et qui et c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on peut pas faire grand chose sur ce côté-là et on se sent parfois impuissant. Donc on conseille à l'entreprise de s'investir localement, de faire remonter l'information. Voilà, il y a des associations aujourd'hui, comme Vélocité par exemple, mais entre autres, qui est là pour défendre les aménagements, qui sont là pour défendre les aménagements. Mais voilà, c'est sûr que ce sujet-là est vraiment le sujet pour moi. Clé pour développer le vélo.
Et toi, Laurent, qui travaille plutôt en ruralité, qui accompagne plutôt les mobilités en milieu rural, comment tu vois, déjà, est-ce que tu as des exemples aussi, peut-être dans les Landes que vous accompagnez pas mal, des exemples d'infrastructures qui ont permis de changer la mobilité et comment tu vois le futur pour redessiner la mobilité dans le rural?
Alors oui, des exemples dans tout type de contexte urbain, on en a. C'est vrai qu'avant de partir dans le rural, pour faire une transition sur le périurbain, là on a parlé pas mal du cœur de métropole. Nous, on travaille pas mal aussi à Bordeaux Métropole sur de l'extra-rocade. Moi, j'étais une dizaine de jours sur la zone commerciale Mérignac-Soleil. Et alors, c'est sûr que tout le monde ne nous dit pas que c'est vraiment le paradis du vélo, mais il y a beaucoup de retours sur le fait que bah, même dans ces territoires, on a des, on peut avoir un quotidien quand même sécurisé que beaucoup à vélo et que beaucoup de choses ont été faites en la matière. Donc quand même du positif en très local. Sur le rural, oui, on a quand même des beaux exemples en local qui fonctionnent bien. Là, il y a un peu une vague qui s'est déclenchée depuis quelques années sur la réaffectation en fait de voies communales vers des voies vertes, des voies vélos. Et c'est vrai que donc ça répond un peu à ta question sur les pistes pour un peu changer radicalement les choses dans le milieu rural. C'est vrai qu'en France, on a un réseau routier incroyablement dense. Le territoire est maillé. Certains bourgs tout petits ont, certains centres-bourgs ont 3, 4 ou 5 voies communales pénétrantes. Donc on a quand même un patrimoine routier qui doit bah, justement être réorienté vers autre chose que justement la voiture individuelle. Donc il y a un potentiel là-dessus et il y a des territoires qui se lancent parmi les pionniers, pionniers d'ailleurs sur beaucoup de choses en matière de mobilité. Il y a la communauté de communes d'Erdre et Gèvre, donc ça c'est en Pays de la Loire, qui a typiquement assez rapidement et avec une approche quand même qui a suscité l'adhésion de localement, mais quand même qui était potentiellement vu comme radical, réaffecter une voie communale qui était une pénétrante dans un des bourgs centres et qui, en fait, bah, du jour au lendemain, est passée en vélo. En plus, très peu d'investissements et de travaux pour changer un petit peu de peinture et de signalétique. Donc ça, il y a un potentiel vraiment énorme en la matière. Et il y a un peu partout en France, en Normandie, là, bientôt aussi plus vers vers Lyon. Il y a pas mal de choses qui se lancent là-dessus. Et c'est vrai que, en fait, si je devais un peu répondre à la question sur le rural, en fait, il y a des actions, on va dire, plus court terme. Aujourd'hui, pour changer les choses assez rapidement, c'est déjà de travailler sur des innovations légères, donc innovation pas au sens innovation technologique, mais plutôt innovation sociale, se dire localement, voilà, quels sont les besoins des habitants, quel est le profil un peu, les distances, est-ce qu'il y a du relief, est-ce que ça gèle en hiver, enfin, partir un peu de l'existant et du concret, et de voir quel service peut répondre à ça. Donc ça peut être justement... via le vélo et en fait assez facilement créer une infrastructure, un réseau vélo assez sécurisé et cohérent localement. Ça peut être travailler sur le covoiturage. Alors c'est vrai que covoiturage du quotidien, ça met du temps à prendre, mais il y a des territoires localement avec des solutions de covoiturage dynamique qui ont pu vraiment massifier ça. Et ça peut être... voilà, il y a certains territoires où il y a une réouverture d'anciennes lignes ferroviaires et donc de se dire comment on utilise ça comme catalyseur de la mobilité localement parce que ça crée un peu des flux. Et donc, est-ce qu'on greffe à ça justement une ligne de covoiturage, une station d'autopartage, un petit service de vélo partagé, ce genre de choses. Donc ça peut assez rapidement changer quand même pas mal de choses avec des ciblages, typiquement les personnes âgées ou les actifs si dans un territoire il y a un bassin d'emploi dynamique, ça peut être ce genre de choses. Et après, à plus long terme, en fait, si on veut vraiment casser cette dépendance à la voiture, parce que on est sur des territoires où l'aménagement s'est fait autour de la voiture, et donc il y a des distances, ça va être compliqué même sur 20-30 ans de complètement remodeler l'aménagement du territoire. Donc partir de l'existant, donc j'ai parlé du réseau routier, il y a aussi quand même un maillage ferré qui peut être important. Donc en fait, là aujourd'hui, moi ce qui je trouve le plus enthousiasmant dans les travaux, les propositions un peu justement vraiment systémiques aujourd'hui sur le sujet, c'est les récents travaux du Forum Vie Mobile là-dessus. Et donc en fait, leur approche, c'est de se dire, on part de ça, sur les routes, on met des cars express avec un cadencement très fort, donc même n'importe où, dans le rural ou dans du périurbain, si on sait que toutes les 20 minutes, il y a un bus qui passe et qui m'emmène dans plein de points potentiellement et pas uniquement un prochain arrêt dans 20 km qui en fait m'obligera à refaire 20 km après. Donc si on a ça et aussi la nuit, le soir, enfin vraiment qu'il y ait cette offre-là, donc sur les routes, que là où il y a un réseau ferré existant, pareil, qui est une offre, en fait c'est un principe un peu de choc d'offres. Donc ça, on a avec typiquement le principe des CERM et des RER métropolitains, il y a un peu cette notion de se dire, par exemple, en Gironde, on a quand même un existant qui fait qu'en travaillant sur une redéfinition un peu de certaines dessertes, ne plus changer de train quand on passe à Bordeaux pour aller du nord-ouest au sud-est de du département, ça peut faciliter et rendre possible des déplacements qui avant étaient vraiment astreints à la voiture. Donc jouer là-dessus et après... du vélo pour un peu mettre d'huile dans les rouages de tout ça, pour favoriser des plus petites connexions. Tu citais le chiffre très important de nombre de déplacements inférieurs à 5 km au quotidien. Pour ça, le vélo, il est dans sa zone de pertinence, jusqu'à même 10 km aussi, avec des VAE dans de bonnes conditions. Donc, c'est un peu ça, si on veut vraiment faire en sorte que les personnes un peu... s'affranchissent de la voiture au quotidien, sachant qu'on ne pourra pas réduire les distances pour tout le monde. C'est un des chantiers, c'est réduire quand même les distances au quotidien, mais on va pas en quelques décennies tout changer. C'est partir de l'existant et vraiment avoir une offre vraiment crédible et massive alternative à la voiture. Et on a l'impression que c'est une montagne, mais quand on met les chiffres, notamment les engagements financiers à mettre en face, on se rend compte qu'on dépense tellement pour la voiture, avec l'entretien des routes, des subventions diverses, tu parlais des voitures de fonction, c'est aussi, il y a des enjeux de justice fiscale en matière de voitures de fonction, ce genre de choses. En fait, il y a quand même pas mal de milliards, après les chiffres, on leur fait dire... différentes interprétations, mais c'est beaucoup de milliards, 300 milliards, je crois, une estimation récente sur le coût du système voiture. Et ça fait un potentiel financier pour investir massivement dans quand même le chantier énorme qu'il y a devant nous pour faire ce choc d'offres, mais les ordres de grandeur sont quand même plutôt en faveur de transport en commun que de la voiture quand on regarde comme ça.
Super intéressant, c'est vrai que tu nous aides bien à comprendre comment on passe d'une logique de tout voiture à une logique justement combinée où on va adapter fonction des tracés, du paysage. Et effectivement, c'est ce qu'on essaie aussi d'accompagner au département à travers notamment la réalisation des routes de covoiturage, par exemple celle qui relie Bordeaux à Créon, qui est assez emblématique. Il y en a une à Mérignac aussi, à travers le déploiement d'un plan vélo assez ambitieux qui passerait de 1000 km à 2000 avec des liaisons et de la création d'axes très forts qui vient aussi en complément du réseau express métropolitain. La liaison aussi intermodale avec le ferroviaire, le réseau ferroviaire, dans une logique aussi de déploiement futur du RER métropolitain. Donc, tout ça, c'est effectivement quelque chose qu'on essaie d'adapter et qui mérite d'être poursuivi encore plus dans les années à venir. En vous écoutant aussi, je me dis qu'il y a une piste peut-être qu'on pourrait explorer pour finir ce podcast, c'est celle des nouveaux usages, des nouveaux véhicules. Peut-être que toi, Mathieu, c'est des choses aussi que tu testes dans ta société. Effectivement, moi, j'ai le souvenir de ma grand-mère qui était très surprise là, récemment en venant à Bordeaux de voir le nombre de long tail ou de vélos cargo dans la ville, chose qu'elle n'avait jamais vue. Et elle était assez surprise et on sentait le côté futur en marche dans ses yeux. Et donc, ma question, c'est de savoir si... quel est le potentiel que vous voyez pour les nouveaux usages plutôt en milieu rural? Je pense notamment aux véhicules intermédiaires. On a notamment des vélotos, des choses comme ça qui se développent. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir le même phénomène waouh comme ça dans les yeux de ma grand-mère dans les années à venir dans le rural? Et plus largement, quel est le crédit que vous donnez justement à ces nouveaux véhicules intermédiaires?
Oui, Romain, oui, c'est une question super intéressante. C'est vrai que moi, je me rappelle encore il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, j'avais vu mon premier long tail et je m'étais dit, mais c'est quoi ce vélo? Et maintenant, c'est devenu presque la norme, en tout cas à Bordeaux. On en voit absolument partout. Non, je pense que la question, c'est de se poser, c'est de se dire, est-ce que ça a vraiment du sens pour déplacer... 60-80 kilos, en général, les gens sont seuls dans leur voiture, tout seuls le matin. Est-ce que ça a du sens de déplacer une carapace de 2 tonnes? Voilà. Et je pense que la question, elle est vraiment à se poser là-dessus, c'est de se dire, on a toujours fait comme ça, et peut-être que l'avenir n'est pas forcément comme ça, parce qu'aujourd'hui, on a un manque de place, avant tout, hein, quand même, il y a un manque de place dans les... et puis pour des enjeux évidemment écologiques, ça n'a pas forcément de sens. Donc toute innovation est bonne à prendre. Le long tail, enfin le vélo cargo de manière générale, donc le long tail fait partie, ça le vélo, ce qu'on appelle un long tail, c'est un vélo allongé qui fait partie de la famille des vélos cargo. C'est énormément développé ces dernières années parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, grâce à ça, à vélo, on pouvait faire énormément de choses. Donc bien sûr. On peut emmener ses enfants à l'école. C'est des choses qui étaient difficilement imaginables il y a quelques années. Il faut se rappeler de ça. Aujourd'hui, maintenant, c'est complètement courant, en tout cas pour Bordeaux, dans le Bordeaux centre. C'est courant d'arriver avec ses enfants avec un triporteur. Et aujourd'hui, maintenant, c'est extrêmement pratique pour aller transporter maintenant des plombiers. Il y a des plombiers, on voit énormément de plombiers dans Bordeaux qui se déplace avec du matériel bien plus efficace, en tout cas pour le petit déplacement, que d'utiliser une voiture, de payer du stationnement, de mettre beaucoup de temps pour se garer. Donc on voit que ça a changé dans le centre. Maintenant, on a des demandes, on a beaucoup de demandes hein, sur les vélos cargo, parce que c'est des vélos qui sont relativement chers. Hein. Un bon vélo cargo, ça coûte plutôt entre 3 000-4 000 euros. Et ça, pas tout le monde peut se le payer. Et c'est là que c'est le modèle du vélo de fonction est incroyable, parce qu'une partie est financée par l'employeur. C'est vrai que je ne l'ai pas mis en introduction, mais c'est quand même un point important. Une partie est financée par l'employeur et une autre partie est financée par le salarié, un peu comme une mutuelle, c'est déduit de sa fiche de paye. Et en fait, ce qui est génial, c'est que la société bénéficie d'avantages fiscaux en mettant en place le dispositif. Donc, en fait, par ce montage financier, on arrive à avoir des vélos qui sont accessibles, des vélos qui sont très chers, qui peuvent être carrément accessibles pour une quarantaine d'euros par mois. On va avoir un vélo cargo pour le salarié, un vélo cargo assuré d'une très belle marque. Et en plus être entretenu avec une révision qui a lieu régulièrement. Voilà, je crois vraiment à ce modèle-là. En France, on est au tout début, c'est anecdotique. On a 20 000 vélos de fonction sur toute la France. Il y en a 2 millions en Allemagne. Et 2 millions en Allemagne, donc un vélo sur deux est vendu via ce dispositif-là. Donc c'est vraiment un vecteur très intéressant pour développer le vélo. Moi, j'y crois dur comme fer. Je crois vraiment à cette innovation, c'est vraiment cette innovation d'usage. On dit bah voilà, que c'est par l'entreprise qu'on peut acquérir son vélo. Il y a 200 000, je disais 2 millions en Allemagne, mais il y a 200 000 en Belgique. En Belgique, il y a quand même 10 fois plus qu'en France des vélos de fonction. Et donc pour répondre à ta question des nouveaux, excuse-moi parce que je m'étale un peu, mais pour répondre à la question des nouveaux usages, donc c'est des vélos qui sont forcément c'est des vélos qui sont plus chers et c'est un très bon moyen, moyen de pouvoir justement accéder à ces vélos-là via son entreprise. Voilà. Et après sur les vélos et les véhicules intermédiaires, moi j'y crois beaucoup aussi. On est encore au tout début de l'histoire, mais c'est très intéressant parce que c'est sûr que quand on a des plus grandes distances à faire, eh ben le vélo ne répond pas plus répondre vraiment à ces problématiques là. Et donc d'avoir des innovations, c'est une des clés de solution. Mais je crois vraiment la transition des mobilités. Il n'y a pas une seule réponse, c'est qu'elle est multiple, et ça je pense qu'il ne faut vraiment pas l'oublier, c'est qu'il faut développer en fonction des usages, il faut développer différents modes. Voilà.
Oui, alors pour répondre à ta question sur les perspectives de ce type de véhicule, notamment dans le rural, je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur le coût. En fait, c'est des véhicules qui sont très chers. Donc là, tu parlais du cargo, qui sont un peu voilà, le spectre des véhicules intermédiaires. Il va du vélo cargo jusqu'à la voiture électrique ultra légère. En fait, voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir des véhicules sobres qui répondent aux mêmes fonctions que la voiture aujourd'hui. Et en fait, c'est vrai que c'est cher, notamment comme pour les véhicules moins massifié que les vélos cargo, par exemple. Comme il y a moins de production, ça reste cher. Après, en fait, c'est ça paraît cher parce que la valeur d'usage perçue, elle est considérée comme faible. Parce qu'on se dit, tiens, en fait, tant que je serai obligé d'avoir quand même ma voiture à côté, mettre 5000 euros dans un vélo cargo, ça paraît énorme. Pour moi, il y a deux freins, du coup. Il y a ce sujet de la valeur perçue et du changement de regard là-dessus, parce que un des gros freins, c'est comment on passe d'une société où la voiture est considérée comme statutaire, symbole de liberté, etc., et donc de se dire je vais perdre ça pour aller sur un vélo ou sur un véhicule intermédiaire un peu bizarroïde. Donc ça, pour moi, c'est un des gros freins. Comme dans beaucoup de sujets de mobilité, au final, c'est pas tant financier, infrastructurel que dans les têtes. Et après, le deuxième frein sur les véhicules intermédiaires, notamment, donc, enfin, en particulier sur le rural, c'est aussi une question d'infrastructure et d'homologation. Quoi. C'est vrai que pour arriver à un niveau de maturité où les véhicules seront homologués pour aller sur la route, etc., il y a un certain nombre de freins. Et donc là, ce que j'évoquais tout à l'heure de la requalification d'une partie du réseau routier vers du vélo, ça pourrait être justement vers du vélo et du véhicule intermédiaire. Donc du coup, il y aurait moins de barrières à l'homologation de véhicules légers à pédales qui aujourd'hui, on n'a pas le droit de les faire circuler sur la route. Les conditions ne sont pas réunies, les tests d'homologation, ça coûte une fortune. et sans garantie, etc. Donc, une des clés, je pense, c'est justement cette reconquête un peu, enfin cette reconquête pas un peu massive du réseau routier pour le réaffecter vers des modes plus doux et doux et actifs. Et donc voilà, ça peut ouvrir vraiment le champ, faciliter le développement de ce type de véhicule. Donc vraiment le côté les têtes et l'infrastructure, comme sur beaucoup de sujets. Ouais.
Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant, ça a permis de brasser assez large. Il y a des questions en vous écoutant que j'aurais eu envie d'approfondir, je pense notamment à l'autopartage que j'utilise moi personnellement, qui a permis aussi de me passer d'un véhicule individuel tout en continuant à avoir justement une accès à la voiture qui est malgré tout indispensable sur certains trajets, mais c'est là où, à mon avis, une bonne piste pour faire en sorte que le parc, en tout cas automobile, puisse réduire, c'est aussi un enjeu en ville. Voilà, on pourrait ouvrir encore plein d'autres pistes, mais je pense qu'on a brassé très large. Merci vraiment beaucoup à tous les deux. Peut-être pour terminer, est-ce que vous auriez une recommandation à nous faire en matière de mobilité, qu'elle soit en matière d'usage d'infrastructures?
Donc, recommandation, moi j'invite à tous ceux qui pensent aux aménagements à faire du vélo avec des enfants. Je pense que moi c'est vraiment là qu'on voit la qualité des aménagements. Et donc, du coup, ma recommandation, ça serait d'aller sur le chemin de l'école, que les élus fassent du vélo avec les enfants le matin. Et je trouve qu'il voilà, y a une chose qui a été très intéressante là, c'est de rendre piétons tous les abords des écoles dans Bordeaux Centre. Je trouve que c'est quelque chose qui devrait être généralisé en tout cas à taille du département et pourquoi pas national un jour. C'est une petite chose, mais en fait le changement de culture il se fait à cet âge là. On sait très bien que les enfants aujourd'hui qui vont à l'école tous les jours à vélo, ce sont les enfants de demain qui iront au travail tous les jours à vélo.
Oui, Mathieu, moi, j'abonde totalement dans ton sens. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, moi, donc, j'ai une fille de 7 ans qui s'est inscrite en fait, chez Cycle et Manivelle, donc l'association vélo, maison du vélo de Bègles, et qui notamment propose des ateliers d'autoréparation. Et en fait, c'est incroyable comme... là, de commencer à bidouiller son vélo, se sentir justement actrice de ça, ça vraiment ça la motive. Elle en parle autour d'elle. Et vraiment, je pense que c'est un tout. On parlait tout à l'heure de système vélo avec les infras. C'est aussi l'autonomisation. Tout à fait. Je pense que de mettre une génération au vélo par tous les moyens, c'est une bonne solution. Et voilà. Et pour finir, donc. On nous avait posé la question des recos un peu plus lecture, ce genre de choses. Juste pour rebondir sur le sujet des véhicules intermédiaires, la voiture, etc. Donc moi, vous aurez compris, je m'intéresse beaucoup au sujet de la voiture, de la bagnole. Et donc, il y a deux... moi, j'ai deux conseils très grand public et hyper intéressants sur le sujet. Alors que je travaille beaucoup sur le sujet, j'ai appris plein de choses. Un podcast une série de LSD là, sur France Culture, La voiture ou comment s'en passer, qui a quelques années, mais qui est vraiment hyper intéressante sur le sujet du rapport à la voiture. C'est vraiment passionnant. Et dans la même veine, il y a un an et demi, un numéro de Zadig, la revue qui était dédiée au sujet, qui s'appelait La bagnole, stop ou encore. Idem, beaucoup de choses à la fois sur le sujet du rural, les personnes âgées, le rapport à la voiture. Voilà. Pour moi, c'est un des gros enjeux aujourd'hui, ce rapport à la voiture. Et donc, voilà, deux petites, une lecture, une écoute, et beaucoup de choses à apprendre assez facilement sur le sujet.
Merci beaucoup. Ouais, complètement d'accord sur la ville aux enfants. J'ajouterais, en tant qu'élu à la politique des personnes âgées, qu'on pourrait aussi dupliquer la logique aux aînés. C'est d'ailleurs ce qui commence à être fait avec des associations comme A Vélo Sans Âge qui permettent de sortir les personnes âgées de résidence. résidence autonomie ou d'EHPAD. Mais voilà, imaginez à l'image des écoles apaisées, des EHPAD apaisés, je pense que c'est aussi une bonne piste qui peut nourrir les prochains programmes municipaux. Voilà, merci beaucoup à tous les deux. Merci aussi à Thomas qui nous a permis d'enregistrer ce podcast et de le monter. À très bientôt et puis bonne route.